Professeur Vincent Pirioux, bonjour.
Bonjour monsieur.
Professeur Vincent Pirioux, vous êtes chef de pôle aux hospices civils de Lyon. Vous êtes anesthésiste réanimateur et aujourd'hui nous allons parler de la sécurité du patient au bloc opératoire, notamment de la checklist. Alors professeur, je crois qu'il faut en remettre une couche. Voudriez-vous nous expliquer qu'est-ce que vous allez faire pour sensibiliser de nouveau les chirurgiens à cette checklist?
Alors tout d'abord, ce ne sont pas les chirurgiens qu'il faut sensibiliser, mais les équipes médicales en général. Hein. Alors c'est vrai que cette checklist est apparue au mois de janvier 2010, probablement de façon un petit peu brutale, suite à un article du New England Journal Médecine qui montrait qu'effectivement, mettre en place une checklist avec des vérifications systématiques pouvait diminuer la morbimortalité des patients au bloc opératoire. Et à juste titre, les autorités de santé, notamment la Haute Autorité de Santé, a réfléchi avec les sociétés savantes à une checklist qu'on pouvait mettre en place dans le contexte de la chirurgie en France. Et ça a débouché sur ce document là que vous connaissez, avec un certain nombre de vérifications à faire bien avant l'intervention, hein, type vérifier l'identité du patient, vérifier le côté opéré, vérifier si le patient n'a pas d'allergie. Des vérifications simples à faire juste avant le coup de bistouri, qui consiste à faire ce qu'on appelle le time-out, c'est-à-dire avec silence dans la salle, arrêt de tout geste de tout le monde, et chaque corps professionnel doit pouvoir s'exprimer sur les questions qui sont posées, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit bien de monsieur X qui doit être opéré, de telle intervention avec telle prothèse. Et puis après, il y a une troisième partie qui est, on va revenir dessus, mais qui est souvent assez mal faite, qui est la partie après l'intervention et qui est extrêmement importante, à savoir par exemple la reprise du traitement anticoagulant où bien il y a les chirurgiens et les équipes d'anesthésie doivent communiquer sur le risque thrombotique, le risque hémorragique de façon à reprendre le traitement anticoagulant, les comptes de compresse, etc. Le problème, c'est qu'après l'intervention, les gens sont souvent pressés, ils ont autre chose à faire. Et dans l'évaluation qu'on a faite, eh bien, cette troisième partie est souvent assez mal faite. Alors, en fait, on s'est rendu compte que le corps soignant est très en phase, très enclin à faire cette checklist, probablement parce que culturellement, ils ont cette culture de la sécurité. Et là où le bas blesse un peu, c'est probablement sur le corps médical. Et on s'aperçoit que s'il n'y a pas un leadership médical fort pour mettre en place la checklist dans le bloc opératoire, et bien souvent la checklist ne marche pas et on arrive à ce qu'on appelle des checklists de complaisance, hein, c'est-à-dire que les cases sont cochées mais la checklist n'est pas réellement faite. Alors il y a un véritable enjeu, hein, un enjeu qui pourrait être même médico-légal, voire, mais en tout cas un enjeu de sécurité du patient pour que les checklists soient faites correctement. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup réfléchi avec la Haute Autorité en Santé, le Collège français des anesthésistes réanimateurs dont je fais partie et les différentes sociétés savantes de chirurgie entre autres, sur comment est-ce qu'on évalue la checklist. Parce que faire la checklist, c'est bien, mais bien la faire, c'est mieux. Et on va proposer une évaluation en quatre phases, quatre étapes. Une première étape, c'est savoir est-ce que la checklist est faite, oui ou non. Et ça semble être l'étape de base. Et on a encore un certain nombre d'endroits où la checklist n'est pas faite. Donc le minimum, c'est de faire la checklist. Et puis après, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la checklist est bien faite? Ça, c'est le niveau 2. Alors, il y a différentes façons de s'en affranchir. La première chose, c'est d'envoyer des questionnaires, de demander aux différents acteurs de santé, et vous savez qu'il y a 5 corps de métier dans un bloc opératoire, hein, anesthésiste, chirurgien, IBOD, IAD, aide-soignant. Donc, quel est son sentiment sur la checklist? Est-ce qu'il y a des freins? Est-ce qu'il y a des barrières pour ne pas faire la checklist? Et puis, à proposer un petit guide d'audit externe où on va voir clairement si la checklist est faite. C'est-à-dire si, par exemple, au moment du time-out, les gens écoutent, s'il y a du silence dans la salle, quelle est réellement la réalisation de cette checklist. Ça, c'est la deuxième phase. Et puis, la troisième phase, ça pourrait être de mesurer la culture sécurité. C'est-à-dire, est-ce qu'à travers la checklist, on améliore la culture de sécurité dans les blocs opératoires? Il existe actuellement des questionnaires qui sont des questionnaires traduits de la HRQ qui permettraient de mesurer cette culture sécurité. Et puis, la quatrième phase, enfin, le quatrième niveau qu'on ne sait pas bien faire, c'est pour finir, est-ce que ça améliore réellement la qualité des soins? Est-ce que ça diminue la mortalité des patients? Et il faudrait essayer de trouver des indicateurs type infection des sites opératoires ou d'autres indicateurs qu'on peut imaginer, qu'on pourrait mesurer pour mesurer l'impact justement de cette checklist.
Professeur Vincent Pirioux, je suppose que vous avez une date où vous avez peut-être faire un bilan de vos actions. Quelle est-elle?
Alors, en fait, il n'y a pas de date butoir. Hein. C'est une réflexion en continu qu'on a. Hein. Aux HTL, c'est une grosse boutique. Il y a de nombreux blocs opératoires. Il y a 4 gros groupements hospitaliers où on a mis en place la checklist, où il y a des salles d'opération. Et cette checklist n'a pas été mise en place en janvier 2010, hein, comme c'était inscrit. nationalement, mais on a réfléchi beaucoup à la mise en place de cette checklist. Parce que derrière cette checklist, il faut savoir qu'il y a un gros travail en amont à faire, c'est-à-dire il faut se poser la question de savoir comment est-ce qu'on répond à toutes ces questions. Quand on dit la position du patient est vérifiée, ça sous-entend que tout le monde sait comment on installe les patients pour toutes les opérations. Donc il faut construire des manuels d'installation des patients avec vérification des complications liées à l'installation. Donc il y a eu tout un travail qui a été fait avec un groupe qui a été piloté entre autres par la direction de la qualité aux HCL, avec des sites pilotes qui ont été mis en place, et on a mis en place cette checklist dans le courant de l'année 2010. Donc on a fait les premiers bilans, on a actuellement informatisé la checklist qui nous permet de mesurer le niveau 1 en permanence et de savoir si la checklist est réalisée ou pas au bloc opératoire. Et puis là maintenant, on a mis en place le niveau 2 et c'est ce que je vais présenter aujourd'hui à la table ronde, c'est-à-dire on a évalué la checklist et on s'aperçoit que le ressenti des soignants est très différent du ressenti des médecins. Derrière la checklist, en fait, qu'est-ce qu'on démasque ? On démasque tous les problèmes de communication. Communication entre les corps de métier, communication entre des gens qui ont des situations hiérarchiques différentes, et on s'aperçoit que les corps de métier ne communiquent pas forcément bien à l'intérieur des blocs opératoires. Donc c'est ce qu'on va présenter aujourd'hui, et que souvent les médecins ont tendance à dire mais tout va bien, et en fait on se rend compte que les soignants ont une perception totalement différente. Et puis il y a des problèmes de leadership au niveau de la checklist. On voit très bien que les blocs opératoires ou les chirurgiens ou les anesthésistes ne croient pas en la checklist ou la négligent un petit peu, et bien ça ne marche pas clairement malgré toute la bonne volonté des soignants. Donc il n'y a pas de date butoir, mais on essaye d'évaluer, et c'est la roue de l'évaluation de Deming. C'est un programme qui est continu.
Professeur Pierru, une dernière question. Quelqu'un qui est intéressé par cette thématique, où peut-il se renseigner ?
Alors sur le site de la Haute Autorité en Santé, il y a toutes les données que vous souhaitez, et puis dans des revues médicales. Enfin moi, je suis rédacteur adjoint là, des Annales françaises d'anesthésie et réanimation. On a fait plusieurs fois des numéros spéciaux sur la checklist. On a fait des éditoriaux de façon régulière. Donc actuellement, il existe une littérature abondante, mais il suffit d'aller sur le site de l'HAS, on trouve la checklist, on trouve le manuel d'évaluation de la checklist, donc toutes ces informations sont disponibles. Et puis quelque chose d'important, c'est que lorsqu'on évalue la checklist, ce qui est nécessaire pour améliorer la qualité de la checklist, eh bien on peut aussi le valoriser nos équipes à travers la certification des établissements, puisque c'est quelque chose, c'est des programmes d'EPP, c'est des programmes d'amélioration de la qualité qui doivent être valorisés par les équipes de bloc opératoire. Et puis on peut servir aussi des incidents qui sont démasqués grâce à la checklist, qui sont évités grâce à la checklist, pour communiquer dessus, ne serait-ce que pour entraîner les collègues dans cette checklist, mais aussi pour mettre en place des revues de morbimortalité au sein du bloc opératoire et alimenter ces revues de morbimortalité.
Professeur Vincent Pierru, je vous remercie beaucoup. Je vous rappelle que vous êtes chef de pôle aux Hospices Civils de Lyon, anesthésiste réanimation. Merci beaucoup, professeur.
Je vous en prie, monsieur. Merci.